morceau de piano nous était proposé aussi par Ferretier. Ferretier, vous aimez beaucoup ce piano. Qu'est-ce qui vous a fait nous le proposer?
C'est un pianiste iranien qui s'appelle Fariborz Lachini. Jouait ce morceau qui s'appelle Pays Talaï, ça veut dire l'automne doré. Et j'aime bien cette piano, ça me rappelle beaucoup de choses.
Alors, Ferretier, on a envie de savoir justement qu'est-ce que l'Iran vous rappelle, parce que vous êtes en Suisse depuis longtemps maintenant, 7 ans je crois, c'est ça?
Non, c'est plus.
Plus que ça? Oui. Combien d'années?
Il y a 10 ans je suis là.
10 ans. Alors, rappelons peut-être à nos auditrices et nos auditeurs, mais je crois que ça, heureusement, les auditeurs de Radio Zone et d'Ondes Femmes, en principe, le savent. Mais un réfugié, une réfugiée, c'est toute personne, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se sent persécutée, qui est persécutée pour sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social, ses opinions, et qui, à un moment donné, se trouve hors de son pays ou qui doit partir. Et qui ne peut pas retourner dans son pays pour les mêmes raisons qui font qu'elle se sent menacée. On sait bien, et on ne cessera de le répéter, que le fait que les gens quittent leur pays n'est jamais autre chose qu'une stratégie de survie pour des gens qui se trouvent en général dans une situation de détresse, de catastrophe, de guerre, que c'est parfois aussi une stratégie pour améliorer leurs conditions de vie personnelles, mais que, en tout cas, très peu de personnes, rares sont les personnes qui choisissent l'exil pour des raisons de pure convenance personnelle. Ils y sont contraints en général. Alors, votre histoire à vous, Ferretier, qu'est-ce qui vous a contraint à un moment donné de devoir quitter l'Iran?
Et vous savez, la vérité, j'étais une partisane de droits de l'homme, et c'est pour ça que j'étais obligée de quitter mon pays et de choisir l'exil. Malheureusement, je ne peux pas dire plus sur ce sujet.
Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de nous raconter, de parler de ce qui se passe dans votre pays, plus en général, que vous avez envie de dénoncer et qu'on partage avec vous ce besoin de dire que, en tout cas dans votre pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés et qu'il y a des choses qui
vous, vous savez, ça c'est une chose que je préfère de ne pas parler dessous parce que tout le monde sait. Et en plus, actuellement, ce n'est pas mon problème. Actuellement, je suis à Genève et je trouvais la paix. Et je suis en sécurité. C'est ça qui est important pour moi. Mais j'aimerais bien de vous parler sur les problèmes de réfugiés, sur mes problèmes depuis que je suis là.
D'accord.
Et au début de mon séjour en Suisse, je commençais à ressentir comme une souffrance mortelle l'absence des amis intimes que j'avais dû quitter. Et la solitude. Cette douleur n'a pas cessé de m'accompagner tout au long de ces années. Et il faut comprendre toute la frustration qu'on éprouve dans de telles circonstances, quelqu'un qui, comme moi, aime passionnément son peuple. Je me souviens des jours qui ont suivi mon arrivée en Suisse. Chaque après-midi, je me rendais au bord du lac. Je contemplais les magnifiques paysages de cette magnifique paysage de Genève. J'admirais les splendeurs de ces parcs. Et pendant des heures, je parlais en pleurant aux fleurs ou à l'eau. À chaque plate-bande, je donnais le nom de l'un de mes enfants que j'avais dû laisser derrière moi en m'exilant. Et je lui racontais toutes mes souffrances. C'était un besoin absolument impérieux pour moi à ce moment-là. Tellement la présence de mes enfants me manquait. Quelquefois, je comparais la Suisse avec la prison que j'avais connue dans mon pays d'origine. Paradoxalement, je regrettais le temps où j'étais incarcérée. Durant cette période-là, j'avais au moins le droit de recevoir tous les 3 semaines la visite de mes enfants et mon mari. Je pouvais communiquer dans ma langue maternelle avec mes codétenus. J'avais le sentiment de vivre en étant entourée de présences amies. Je connaissais tout le monde. En Suisse, en revanche, je ne connaissais personne. Je ne parlais pas la langue française. Et j'étais séparée de mes enfants. Et c'est dur à dire. Lorsque mon corps saignait, lorsque je souffrais de nostalgie, personne ne venait me consoler. En plus, en tant qu'étranger, je me sentais de trop. Et pourtant, les Suisses que je côtoyais ont toujours été très bons pour moi. Pour sortir de mon isolement, je commençais à vouloir apprendre le français. On m'a permis de fréquenter des classes collectives pendant 3 mois seulement, avec des élèves bien plus jeunes que moi, qui avaient déjà une certaine connaissance de la langue. Grâce au centre social protestant, j'ai pu obtenir encore un autre cours pendant 3 mois supplémentaires. Pouvez-vous imaginer comment une femme qui a fini par s'enfuir précipitamment de son pays en laissant de passer par là peut être capable d'apprendre la langue de son pays d'accueil en quelques mois? Souvent, après réflexion, je me suis consolée en me disant que j'avais tort de m'inquiéter. Dans quelque temps, je me disais à moi-même, je connaîtrai leur langue, je construirai mon foyer, je pourrai y faire venir mes enfants ensuite. Quand des temps meilleurs seront venus pour mon pays, nous pourrons tout ensemble y retourner. Nous retrouverons alors notre maison et notre famille quand le régime dictatorial actuel aura céder la place à la démocratie. Ce que j'aurais souhaité, cela aurait été de pouvoir bénéficier d'une application minimum de droits élémentaires d'un être humain. Dans mon pays d'origine, on m'avait considérée comme un criminel parce que je militais pour le respect des droits de l'homme. C'est pour cela que j'avais dû m'exiler dans un pays qui prend précisément d'une manière très insistante le respect de ces droits pour lesquels j'avais lutté. Dans ma naïveté, j'imaginais que la Suisse ferait tout pour me permettre de trouver mes enfants. Pour moi, il s'agit d'un droit fondamental. Mais hélas, combien j'étais loin de la réalité. Combien l'optimiste avec lequel je considérais ma situation était-il infondé.
Il vous a fallu combien de temps pour que la Suisse, finalement, vous donne le droit d'asile en Suisse ?
7 ans et demi. Et c'était long. C'était très, très long. Et vous savez, j'ai souffert terriblement. Je ne peux pas dire qu'est-ce que je subis depuis 7 ans et demi. Seulement, je pourrais dire... Même un soir, je n'ai pas dormi tranquillement. Parce que tous les soirs, je pensais, qu'est-ce qui m'arrivera demain? Et ça, c'était suffisant pour me détruire.
Est-ce que vous aviez la sensation que la Suisse allait vous renvoyer? À un moment donné, vous vous êtes senti dans cette insécurité-là?
Bien sûr, bien sûr.
Pourquoi on ne reconnaissait pas en Suisse les persécutions dont vous aviez été victime dans votre pays ?
Si, si. Vous savez, quand je suis venue ici, je n'avais pas le papier. Et j'avais des attestations de beaucoup de longs politiciens iraniens, connus dans le monde entier. Mais ils ne l'acceptaient pas.
Qu'est-ce qu'on vous répondait dans les lettres qu'on vous envoyait? Qu'est-ce qu'on vous disait?
Ils ne me croyaient pas.
Voilà. Et vous disiez?
Et un jour, il m'a répondu non. On vous donne de permis provisoire.
Pour combien de temps?
Ce que m'a vexé vraiment profondément. Et je donnais un recours Et après le recours, il m'a dit oh, ok.
Et là, vous avez dit, on ne vous a pas aidé à... Alors, une fois qu'on vous a enfin reconnu le droit de rester en Suisse, on ne vous a pas donné la possibilité de faire venir vos enfants.
Non, je ne l'ai pas demandé, mais 4 ans après que j'étais en Suisse, avec l'aide de 2 avocats, deux avocats compétents. Et ma fille, la plus jeune.
Qui a quel âge ?
Actuellement 23 ans. Mais quand je l'ai quittée, elle avait 13 ans. J'étais très inquiète pour elle. Et j'ai voulu qu'elle vienne toute seule. C'est tout. Et il n'était pas d'accord.
Pour quelle raison ?
J'ai lutté pendant 4 ans avec l'aide de 2 avocats. Et enfin, mon avocat a réussi de l'obtenir, un permis étudiante pour ma fille. Et quand elle est venue ici, elle avait 17 ans. Quand elle est venue ici, elle avait au 3e année de lycée en Iran, mais elle était obligée de... elle recommençait de à classe d'accueil. Elle renonçait de 4 ans. Et même encore, elle n'a pas obtenu son diplôme parce que toujours elle étudie.
Quand voilà. On vous refusait le droit de faire venir votre fille, quels étaient les arguments que l'on vous donnait ? Pourquoi elle ne voulait pas que votre fille vienne ?
Je ne sais pas.
C'est un des points importants, c'est que n'ayant pas l'asile, bien, le regroupement familial n'entrait pas en ligne de compte. Donc,
voilà, donc il faut mettre en évidence que refusant à un moment donné aux personnes le droit, en même temps, cela maintient la séparation
Absolument.
Avec les membres de leur famille.
Vous savez, quand je suis venue ici, avec l'aide d'une amie, mes enfants sont venus chacun séparément et ils restaient pendant un mois et demi et elles partaient. Et ma fille l'aînée, la deuxième fois quand elle est venue ici, elle restait un mois et elle partait. Et après, pendant 7 ans, il ne m'a pas donné de permission qu'elle viendrait ici. Et chaque année, je demandais, je donnais une invitation, j'ai payé pour l'invitation, mais il refusait tout le temps. Et cette année, l'année passée, l'année 98, avec l'aide de mon avocat, qu'il fait beaucoup de démarches, et enfin... un recours. Et elle est venue après 7 ans. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance mortelle. Vous pouvez imaginer pour une mère combien c'est difficile de séparer de ses enfants. Et en plus, mes 2 enfants, l'aîné et le second, quand je suis venue ici, elles étaient célibataires. Et après, elles se sont mariées. Ma fille l'aînée a une petite fille. Et même jusqu'à maintenant, je ne connais pas mes gendres parce que je ne l'ai pas vue. Ils n'ont pas le droit de venir. Et moi, je ne peux pas retourner dans mon pays. Et c'est une souffrance incroyable. Je ne peux pas vous raconter comme ça.
Et vous avez la sensation, Ferretti, qu'on ne laisse pas venir votre famille parce qu'on on craint qu'ils restent ici.
Oui, oui, oui.
Toujours cette même méfiance de l'abus.
Oui, oui. Tandis que mes enfants, ils vivent en Iran avec une bonne situation et ils n'ont pas de problème politiquement. Et je sais pas.
Donc on leur refuse un visa de touriste en fait,
oui,
même, tout
oui,
simplement ça.
Oui. Et cette année, ma fille est venue ici pendant les fêtes, oui, au mois de janvier. Et elle restait une semaine parce qu'elle ne pouvait pas rester de plus. Elle quittait Suisse. Pour moi, après 7 ans, j'ai vu ma fille et ma petite fille. Et voilà, c'est tout.
Comment elle s'appelle, cette petite fille?
Asal.
Asal.
Ça veut dire miel.
Oh. Pendant toutes ces années, Ferretti, vous avez dû faire toutes des démarches, vous nous avez dit, avec des avocats, de nombreux recours, des demandes répétées sans arrêt. C'est un travail gigantesque, sans parler de ce que vous ressentez vous-même dans votre cœur. Mais je veux dire, vous avez obtenu l'aide de qui? Parce que ça, c'est aussi quelque chose peut-être que les gens ne s'imaginent pas, c'est qu'entrer dans ce monde des recours, de la justice, de la légalité, c'est un monde qu'on ne connaît pas comme ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas été éduqué, instruit, qui ne reçoit pas d'aide, comment il se démène dans ce monde-là? Vous avez ressenti, vous, cette difficulté?
Bien sûr, bien sûr. C'est... J'ai quelques amis politiciens qui collectaient un peu d'argent. Et en plus, pour tous les recours, c'est assistant juridique qui payait. Et un de ces avocats fait toutes les démarches, il fait gratuitement pour moi, pour au nom d'une aide, et je le suis reconnaissante. Et vous savez, à ce moment-là, les rentes que réfugiés ont pris, c'était 900 francs environ, même. Et 90 francs l'argent de poche aussi. Petit à petit, c'était 700 francs environ. Et les dernières qu'il y a 2 ans et demi, ils m'ont payé 500 francs et 90 francs l'argent de poche. Et toujours, ils serraient les choses et on vivait vraiment dans les serrées. Mais pour l'avocat, j'étais obligée de demander à mes amis et toujours je dois la rendre parce qu'ils sont réfugiés aussi et ils vivent dans le serré aussi. Et j'espère qu'un jour j'arriverai à le rendre, bien sûr, petit à petit. S'il y a un petit changement dans ma vie.
sur cette très belle flûte que vous nous avez amenée, faire rester, j'aimerais, je crois que vous avez envie encore de mettre une conclusion à votre témoignage.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Et mon vœu le plus ardent est que les pays qui connaissent actuellement la tyrannie découvrent un jour la liberté et que les réfugiés j'y ai, puissent y retourner.
Meg is vigasztalja.